Beau succès populaire pour le BNC Beach Sport Festival sur l'Onsvata. Des milliers de personnes ont fait le déplacement durant deux jours pour s'essayer à de nouveaux sports à la plage. Trois communes, Thiot, Yatt et Mont-d'Or, toujours en vigilance orange, forte pluie, orage ce soir. Les conditions météo resteront très instables au cours des prochaines heures. Un week-end loin de Matignon pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a rechargé les batteries ce week-end dans son fief de Vernon dans l'Eure. Le projet de loi de finances lui arrive demain à l'Assemblée nationale. La mise en œuvre de l'accord de paix au Proche-Orient se poursuit. Le Hamas a restitué à Israël les corps d'otages morts à Gaza après l'attaque du 7 octobre 2023. Le clap de fin des mondiaux de triathlon en Australie. Plus d'une vingtaine de Calédoniens avaient fait le déplacement cette semaine sur l'île continent pour la dernière étape du circuit mondial. En Calédonie, Gabriel Espada s'est imposé sur le Trail Shell Pacifique qui s'est couru ce matin à Dimbéa. 860 participants ont été réunis au Parc Fayard. Et puis le football en métropole et l'Olympique de Marseille qui a pris seul les commandes du championnat de France de Ligue 1 ce matin. Les Marseillais sont imposés 6 buts à 2 sur le Havre. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité, la fin du BNC Beach Sport Festival. L'Onsvata était le théâtre durant deux jours d'un événement pour attirer le maximum de public à la pratique du sport. Le bilan est plus que satisfaisant pour tous les acteurs qui étaient impliqués dans la mise en place de ce nouveau rendez-vous. Michael Juneski.
Une belle réussite pour cette grande vitrine sur toutes les disciplines pouvant se pratiquer à la plage ou sur l'eau, tournois, initiation, du spectacle pour ceux qui voulaient découvrir ces sports. Le programme était très riche, près d'une quinzaine de disciplines étaient représentées.
Niki Tebeuil, je suis secrétaire général de la Ligue de handball de Nouvelle-Calédonie. On a un variant du handball qui est le beach handball, donc qui existe déjà à l'international et qui n'est pas pratiqué actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et donc le BNC Beach Sport Festival était l'occasion pour nous de pouvoir faire découvrir cette variante du handball qui n'est pas connue du tout. On a eu beaucoup de monde, un beau temps durant ces deux jours. Pour une première édition, c'est franchement réussi. Sur deux journées, on ne pensait pas, nous en tout cas au niveau du beach handball, avoir autant de personnes. Et franchement, on est content.
Donc moi, je suis Bastien du Média Foot NC qui s'est occupé du foot volley. C'était vraiment très bien. En plus, on annonçait peut-être des conditions météo difficiles. Finalement, il a fait globalement beau, même s'il y avait un petit peu de vent. Mais nous, personnellement, ça ne nous a pas dérangé. Non, c'est une très bonne chose. Pour la mixité, pour le sport, pour la santé, c'est très bien. Ça fait deux tournois, un le samedi et un dimanche. Le samedi, il a dû avoir une quarantaine de participants. Et le dimanche, on a dû atteindre la 80, je pense, à peu près. Ça poussera sûrement des gens à essayer de s'y amuser sur la plage quand eux-mêmes, ils iront.
Daniel Grondin, de la commission Beach Tennis de la Ligue Calédonienne de Tennis. Bah, nous, on avait un super espace. On a pu mettre trois terrains. Du coup, on a alterné entre découverte de la pratique pour ceux qui n'avaient jamais fait et des petites compétitions non homologuées pour les confirmer. Nous, le but, c'était aussi de nous montrer au grand public. On a eu énormément de nouveaux joueurs et beaucoup de demandes pour continuer la pratique dans les semaines à venir.
Et c'était l'occasion d'attirer de nouveaux licenciés avec des initiations à différentes pratiques qui ont beaucoup plu à la jeunesse. Des milliers de personnes ont fait le déplacement durant deux jours pour s'essayer à de nouveaux sports. Christophe Dabin, le président du CTOS.
Moi, ce qui revient, c'est rassembler, le vivre ensemble et le partage. Et je crois que ces trois mots résument exactement ce qu'on voulait en organisant ce BNC Beach Festival sportif. C'est vrai que du coup, déjà, on peut organiser ça parce qu'on a des ligues, des comités qui sont extrêmement réactifs et qui ont été, intéressés par cet événement. Et de toute façon, que ce soit, ceux qui organisent et ceux qui participent, tout le monde se demandait quand est-ce qu'on recommence. Donc, il va falloir déjà qu'on fasse le point sur cette manifestation, mais de toute façon, c'est la première et c'est loin d'être la dernière. C'est vrai que déjà, on peut vraiment remercier la mairie de Nouméa et madame la maire d'avoir accepté à ce qu'on puisse faire cette manifestation sur deux jours. Donc ça, c'est déjà une première réussite. Et ensuite, c'est vrai que l'objectif, c'est de voir et se dire que on peut avoir des disciplines en salle, mais là aussi, on peut avoir des disciplines qui peuvent se décliner sur le sable. Et là, on a montré pendant tout le week-end que c'était quelque chose qui intéressait les gens et ça permet là aussi pour l'ensemble des ligues, de trouver un autre public. Vraiment, nous, dans ces deux jours, c'était véritablement de montrer ce que le sport peut proposer, ce que le sport peut être comme un moyen de cohésion sociale. Et c'est vraiment le moyen de dire qu'avec le sport, on peut réussir.
Le BNC Beach Sport Festival à Nouméa sur la plage de l'Onsvata, qui était donc entièrement gratuit.
Allez, toujours au chapitre festif à Koumac, dans le Nord. C'était ce week-end, les journées du patrimoine au village du Vieux Teibagui. Découvertes, traditions, convivialité auront été au cœur d'un très beau week-end. Satisfaction pour Didier Fontes, c'est le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord-Calédonien.
Pour nous, ce C'est vrai que la journée du samedi a rempli toutes nos attentes puisqu'on a eu beaucoup de monde, une affluence record. En plus, il a fait beau, donc tous les éléments étaient réunis pour que ce soit une très belle journée. Bon, c'est sûr que le dimanche, ça a toujours été un peu plus calme que le samedi. On a fait carton plein déjà pour le samedi.
Donc vous êtes quand même relativement content.
Ah oui, oui, tout à fait. Au-delà de nos espérances d'ailleurs.
Didier Fontaise, le président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord-Calédonien, joint au téléphone par Marie Romain. À 17h50, ouvrons l'agenda de la semaine qui va débuter d'ici quelques heures. Il s'agira de la dernière semaine de vacances pour ce mois d'octobre, Michael Juneski.
Au chapitre institutionnel, c'est mercredi soir à Paris que débutera à l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales pour permettre la mise en œuvre de l'accord de Bougival, un texte qui a été adopté la semaine dernière au Sénat. En Calédonie, les élus de la province Nord se retrouveront en séance publique vendredi prochain. À l'ordre du jour, 21 projets de délibération, dont la délibération modificative numéro 3 du budget de la province. À partir de mardi, aura lieu la première édition de la Digital Week, un événement organisé jusqu'à vendredi prochain par la CCI et dédié à la transformation numérique des entreprises. À noter aussi que vendredi sera donné le coup d'envoi de la semaine du cheval et du poney à l'hippodrome Henri Millard. Les animations et concours seront nombreux vendredi, samedi et dimanche prochain. Et puis, c'est samedi, le 25 octobre à 20h, que Patrick Bruel sera en concert à l'Arène du Sud de Païta dans le cadre de sa tournée On en parle. Les places sont en vente sur le site ticket-pacifique.nc.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu demain matin, à l'avant-veille de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi organique visant donc à reporter les élections provinciales. C'est Virginie Rufnac, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invitée du matin. Rendez-vous à 7h30 sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Et puis notez également que juste après ce journal, vous pourrez entendre ou réentendre Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Vendredi midi, Elisabeth Noir recevait le général Aouchine, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Une émission qui est également disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Environ 150 personnes a participé hier au Mont d'Or à une marche blanche en hommage à un homme de 32 ans tué par balle le 20 septembre dernier à Ploum au cours d'une intervention de la gendarmerie. Le procureur de la République de Nouméa a confirmé vendredi dans un communiqué que l'autopsie du corps de la victime avait révélé la présence dans la tête d'un projectile balistique de calibre 9 mm. Les tirs étaient intervenus en marge d'une intervention de la gendarmerie lors d'une rixe. Un gendarme a été placé sous le statut de témoin assisté. Une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, aggravée par l'usage d'une arme, a été ouverte. Dans son communiqué, Yves Dupas indique que les investigations sur les faits mettant en cause le gendarme se poursuivent. Le procureur qui indique par ailleurs que les proches de la victime, qui s'interrogent sur le fait que le gendarme ait été placé sous le statut de témoin assisté, ont accès au dossier et qu'ils pourront, écrit Yves Dupas, et je cite, solliciter auprès du magistrat instructeur des actes d'enquête. Fin de citation. Et puis trois communes, Thio, Yaté et le Mont d'Or, toujours en vigilance orange, forte pluie et orage en cette fin d'après-midi. Un épisode pluvieux et orageux inhabituel s'est mis en place, indiquent les services de Météo France. Un axe de basse pression s'est également installé sur la Nouvelle-Calédonie. Il engendre un risque pluvieux-orageux, principalement sur l'extrême sud et le sud de la côte est. Des cumuls de précipitations de l'ordre de 100 à 150 mm ont déjà été relevés entre Yaté et Goro la nuit dernière. Les conditions météo vont rester instables au cours des prochaines heures. Les autres communes du territoire, à l'exception de Pointe-Bout, Conné, Vauca, La Gomène, Koumac, Poum, Béleb, Ouégua et Puébo sont en vigilance jaune, forte pluie et orage. Vigilance jaune également, mais pour vent violent cette fois-ci, sur les communes de l'île des Pins, Marais, Mont-d'Or, Nouméa et Yaté, où l'on attend des rafales sous orage de l'ordre de 40 à 45 nœuds, soit environ 80 km/h. Météo complète à la fin de ce journal. Il est 17h et pratiquement 55 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslégales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Un Premier ministre l'air serein dans son fief de Vernon. Dans l'heure, Sébastien Lecornu a été aperçu, cabas sous le bras, arpentant le marché de la ville dont il a été le maire. Premier week-end hors de Matignon, après avoir échappé à deux motions de censure. Mais le répit ne sera que de courte durée. En effet, demain débute à l'Assemblée nationale l'examen du projet de budget 2026 avec un calendrier extrêmement serré, puisque les députés, vous le savez, ont jusqu'au 31 décembre pour se mettre d'accord. Une multitude d'amendements devront être examinés et Sébastien Lecornu a promis de ne pas recourir au 49-3 pour faire adopter ce projet de budget. Le Premier ministre qui va donc une nouvelle fois devoir faire des compromis. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Ce budget ne sera ni socialiste ni macroniste, affirme la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, même si elle confie que plusieurs concessions seront faites à Olivier Faure et ses troupes, notamment sur les franchises médicales qui doivent doubler de prix, une mesure qui devrait être abandonnée lors des débats. En revanche, hors de question de taxer plus lourdement les héritages, prévient Maud Bréjon, alors que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a déclenché une vive polémique en affirmant vouloir s'en prendre, je cite, à ce truc qui tombe du ciel. Évidemment, viendra aussi la question de la suspension de la réforme des retraites, le point de blocage ultime, car même si Sébastien Lecornu est obligé de faire cette concession pour garder la non-censure des socialistes, de nombreux députés macronistes et de droite refusent de voter cet amendement. Mais aujourd'hui, la stabilité gouvernementale est devenue prioritaire. Alors, même Emmanuel Macron demande à ses députés de ne pas s'opposer à cette suspension. « Je sais que cela vous coûte », lance le chef de l'État. Reste à savoir si ces directives seront appliquées.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Des débats qui s'annoncent donc tendus à l'Assemblée nationale et un avertissement ce soir, celui de la ministre des Comptes publics. Pas de budget, c'est bloqué la vie des Français, dit Amélie de Montchalin, au lendemain de la dégradation de la note de la dette française par Standard & Poor's. Une dégradation de la note à laquelle le nouveau ministre de l'économie, Roland Lescour, a réagi sur Europe 1.
C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité. Donc effectivement, ça va demander des efforts. Et au fond, c'est ce que nous dit l'agence Standard & Poor's aujourd'hui. Nous, on a déposé un projet de budget pour 2026. Le projet, il vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7% du PIB. Ce budget, évidemment, il faut qu'il soit voté. C'est vraiment à nous. Et quand je dis nous, c'est à la fois le gouvernement et le Parlement de convaincre les investisseurs et les agences de notation.
Roland Lescure, le ministre de l'économie, invité d'Europe 1 Week-end. L'agence de notation Standard & Poor's, pour expliquer la dégradation de la note de la France, pointe l'incertitude sur les finances publiques françaises et le mauvais signal qui a été envoyé par la suspension de la réforme des retraites. Suspension qui fera l'objet, évidemment, d'une bataille à l'Assemblée nationale avec en toile de fond une question. Quel avenir pour la retraite par répartition à l'heure où le nombre de cotisants baisse et celui des retraités, à l'inverse, augmente. D'autres régimes sont possibles, a laissé entendre le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui évoque notamment la retraite à points, mais aussi la piste d'une retraite par capitalisation. En bref, un rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy, mardi matin à Paris, à l'appel de son fils, Louis Sarkozy. Mardi sera le jour où l'ancien président de la République sera incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Les avocats de l'ancien président ont indiqué que dès les premières heures d'incarcération, ils soumettront une demande de remise en liberté. « Je n'ai pas peur de la prison », dit Nicolas Sarkozy ce soir, qui précise n'avoir demandé aucun privilège. Dans l'actualité judiciaire, l'ouverture du procès de Dabia Benkeriel, cette Algérienne sous OQTF, accusée du viol et du meurtre de la petite Lola. C'était il y a 3 ans dans le 19e arrondissement de Paris. Face aux proches des victimes, elle a demandé pardon pour la toute première fois. Et dans cette affaire, le jury populaire va avoir la possibilité de condamner la suspecte à la perpétuité incompressible, peine qui est prononcée de manière très rarissime. Écoutez l'ancien magistrat Georges Fenech.
C'est le maximum de la peine qui existe dans notre droit français depuis l'abolition de la peine de mort. c'est-à-dire perpétuité, et vous ne pouvez pas bénéficier de la moindre permission de sortir ou de libération conditionnelle avant 30 ans.
La peine incompressible ne peut s'appliquer que dans des conditions précises en cas de crime terroriste, de meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie sur mineur de 15 ans. Vient s'ajouter le meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'Institut pour la justice réclame que cette peine s'applique à Dabia Benkeried. Le jugement est attendu à vendredi prochain. L'actualité à l'étranger, au Proche-Orient, il n'y aura pas pour le moment de réouverture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, tant que toutes les dépouilles d'otages israéliens n'auront pas été restituées à Israël, annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui avertit par ailleurs que la fin de la guerre à Gaza ne prendra effet qu'avec le désarmement du Hamas, le mouvement terroriste qui vient de rendre deux nouvelles dépouilles d'otages. Benjamin Netanyahou qui a par ailleurs annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat de Premier ministre lors des prochaines élections. Et peu importe l'accord de paix signé dernièrement, la situation au Proche-Orient continue d'avoir des conséquences un peu partout dans le monde, et jusque dans, dans le domaine du sport. Pour preuve, les championnats du monde de gymnastique qui débutent à Jakarta, en Indonésie, se dérouleront sans athlètes israéliens. L'Indonésie leur a en effet refusé l'entrée sur son territoire. Une décision politique que déplore le Comité international olympique. Christopher Filok pour Europe 1.
Et l'équipe israélienne de gymnastique menée par Artem Dolgopiat, médaillé d'or olympique à Tokyo et champion du monde en titre, se dit consterné par cette décision qui les dépasse. Le tribunal arbitral du sport, saisi par la fédération israélienne, a rejeté les requêtes visant à obliger la fédération internationale à garantir la participation de l'équipe israélienne. L'analyse de Claude Moniquet, spécialiste renseignement et terrorisme.
C'est une décision politique totalement assumée par le gouvernement indonésien qui dit « nous n'accepterons pas la présence et de relations avec Israël tant qu'Israël ne reconnaîtra pas, je cite, l'existence d'une Palestine libre et souveraine ». Tout le monde sait qu'il y a un cessez-le-feu qui ira peut-être jusqu'à un accord de paix et qui vient d'être signé. Donc Israël a fait des concessions, mais Israël est puni quand même. Ça prouve bien que ce n'est pas des manifestations de soutien à la Palestine, c'est de l'anti-israélianisme, voire de l'antisémitisme.
En mars 2023, l'Indonésie s'était vue retirer l'organisation de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans par la FIFA, après que le gouverneur de Bali s'était dit opposé à la présence de la sélection israélienne.
Christopher Filok du service des sports d'Europe 1. 18h02, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive. Le sport, le vrai, cette fois-ci.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabot.
Et le sport côté calédonien pour commencer. Clap de fin sur l'étape finale des mondiaux de triathlon en Australie pour nos représentants qui avaient fait le déplacement, Michael Juneski.
En marge des épreuves élites, un quatuor calédonien était encore engagé aujourd'hui sur un relais mixte. Ils ont terminé 7e de leur catégorie. Nous avons fait le point avec Eric Savignac, le président de la Ligue calédonienne de triathlon qui était du déplacement à Wollongong sur l'île continent.
Une semaine qui s'achève par un dimanche chargé avec l'équipe calédonienne qui a participé à un tri-relais mixte composé de Charlotte Robin, Nathalie Viratel, Tristan Butz et Bernard Lègle. Ils ont terminé à une place honorable de 7e. Une semaine chargée en émotions avec des podiums en format M, des podiums en format S et puis une bonne participation des Calédoniens. Nous avons également pu suivre les exploits de l'équipe de France, notamment chez les juniors avec deux médailles d'or chez les hommes, chez les femmes et également chez les paralympiques. Et nous nous sommes régalés. C'est un bouquet final, une semaine exceptionnelle.
On rappelle que durant une semaine, plus d'une vingtaine de nos représentants avaient fait le déplacement pour cette dernière étape du circuit mondial de triathlon. Les Calédoniens avaient déjà remporté du bronze avec Bernard Lègle chez les 70-74 ans et Mathieu Salamacha chez les 40-44 ans sur le format olympique.
Toujours hors du territoire, en pétanque, on joue la fin
ce dimanche des Océanias, c'est du côté de Wallis et Futuna.
Ouais, depuis jeudi, les Calédoniens tirent bien leur épingle du jeu, avec déjà une médaille d'or dans le concours de tir pour Ernest Ngadae et une de bronze pour Swane Oloya. En tête-à-tête, Ernest Ngadae a encore terminé avec l'argent au pointage messieurs et Laurent Nofonofo a fini avec le bronze, tandis qu'au pointage dames, Hélène Togaki a fini avec la médaille d'argent. Sur place, Ingrid Laurent, la présidente de la Ligue calédonienne de pétanque, participe aux épreuves.
L'enjeu est énorme ici aux Océanias de Wallis parce qu'il faut comprendre que chacun des pays vient défendre leurs couleurs et surtout montrer qui est numéro un dans la pétanque au niveau de l'Océanie. C'est celui qui a le plus de médailles d'or. Donc celui qui a le plus de médailles d'or ressort numéro un de l'Océanie. En 2023, c'était Tahiti et on les a talonnés juste derrière. Cette année, effectivement, il y a énormément. Ce sont les meilleurs représentants de chaque pays que l'on doit affronter et c'est des vrais combats. Hein. Je veux dire que là, on voit que le niveau est un peu plus élevé que d'habitude. Et bon, cette année, on est très fiers aussi de Ernest Ngadae qui vient ramener la médaille d'or. Au niveau du tir, c'est une première pour la Calédonie, vraiment une première parce que de tout le temps et les dernières Océanias, toujours Tahiti, ont été numéro un au tir de précision. Et là, cette année, c'est la Nouvelle-Calédonie qui remporte la médaille d'or, mais aussi la médaille de bronze.
La compétition qui se termine ce soir, donc, dans ces Océanias de pétanque à Wallis et Futuna.
On parle handball à présent, Mickaël, avec le doublé des jeunes sélections féminines à l'IHF Trophy de la zone Océanie. C'était aux îles Cook.
Les sélections calédoniennes des moins de 17 ans et des moins de 19 ans qui jouaient les finales des tournois. Les moins de 17 ont battu les néo-zélandaises dans les toutes dernières minutes de la rencontre, 27 à 25. Par la suite, les moins de 19 ans se sont encore imposés sur les australiennes sur le score de 30 à 25. La réaction de Petelo Sealeu, coach des calédoniennes de moins de 19 ans.
Pour les deux victoires, très fiers. On a vu que le travail et l'investissement et les sacrifices qui ont été faits en amont ont payé. Dans l'ensemble, très beau tournoi. Pour nous, ça a été une découverte. D'après ce que nous, on a vu auparavant, le niveau s'est bien amélioré. On attendait Tahiti et c'est Australie et Nouvelle-Zélande qui nous affrontent pour la finale. Donc c'est que le niveau a vraiment progressé. Très fier du travail et très fier surtout du résultat, quoi. Très fier des deux équipes. On va rentrer avec les deux coupes et puis j'espère que pour qui on a travaillé seront fiers de nous aussi et des petites surtout.
Nos deux sélections qui ont donc fait le doublé en battant les voisines anglo-saxonnes pour le titre.
Un retour en Calédonie avec une belle participation pour le Trail Shell Pacific Sport Santé de Dimbéa. C'était ce matin au Parc Fayard.
Oui, plus de 850 participants réunis sur les différents parcours proposés. Du côté des confirmés, sur le parcours phare de 33 km, c'est Gabriel Espada qui a encore ajouté une ligne à son palmarès en s'imposant en un peu plus de 3h et 36 minutes, 29 secondes d'effort pour être précis. Il était surtout fier de prendre part à un événement pour promouvoir le sport santé.
Le sport, c'est la santé, c'est être bien dans sa tête, être bien dans son corps. C'est le meilleur des médicaments pour éviter les maladies cardiovasculaires qui sont le plus gros ravage de nos dernières décennies. Ça fait vraiment plaisir. Hein, c'est une superbe fête, plus de 800 personnes. C'est incroyable, malgré quelques petites gouttes, mais les gens sont là, ils n'ont pas peur. Et c'est vraiment agréable d'avoir tout un panel de courses qui vont du 6 km jusqu'au 33. Il y a de quoi se faire plaisir pour tout le monde.
Gabriel Espada qui a devancé Samuel Conan et Steve Gignet. La meilleure féminine est Cassandra Kerol. Elle a fini 14e au classement scratch. Un trail pour la bonne cause hein, qui a été mis en place par l'association Taratoni Cycle & Run et dont une partie des bénéfices sera reversée à l'association Dimbéa Handicap.
Et toujours sur le territoire, on parle équitation puisque les championnats territoriaux de Western se déroulaient à la fois ce week-end en présence d'un expert fédéral de la discipline.
Deux jours de compétition à la fois et un invité de prestige pour les pratiquants calédoniens, François Guillot, enseignant et responsable d'un centre d'équitation western en métropole. Et il est en charge de la commission équitation western à la FFE, la Fédération Française d'Équitation. Il a beaucoup apprécié cette visite sur le territoire.
J'ai passé deux semaines, on a pu faire de la formation pour les juges. C'est la formation continue. Là, on peut se rendre compte que les gens étaient intéressés puisqu'ils ont tous répondu présent. On a fait de la formation de cavaliers, donc on a eu des publics divers, on a eu des publics publics adultes, débutants et confirmés, des publics adolescents, enfants. Le potentiel, le problème, c'est que la Calédonie, c'est une île. Donc nous, en Europe, on a le potentiel à aller voir ce qui se passe chez nos voisins étrangers. J'ai déjà eu plusieurs cavaliers de Nouvelle-Calédonie qui sont venus nous voir en France pour se perfectionner et participer à des compétitions en France. Au-delà de la passion, c'est la culture qui est ici. C'est un peuple cavalier. On trouve des chevaux partout, du bétail partout. Ça change par rapport à ce qu'on a en France. Donc il y a une vraie culture cheval. Ce qu'on voit, c'est l'évolution des cavaliers. Ce qui a été vu lors des stages sur les précédentes journées, on voit que ça a porté ses fruits puisqu'ils en ont pris compte dans l'exécution de leur parcours.
François Guéot, référent de l'équitation western à la Fédération française, qui aura passé une quinzaine de jours sur le territoire jusqu'à ces championnats d'équitation western qui se déroulaient à la fois tout au long du week-end.
Le sport en métropole et dans le monde à présent avec du football. Et la suite et la fin demain matin pour nous de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1. À suivre Lens, Paris FC, Toulouse, Metz, un derby galette saucisse entre Lorient et Brest. Rennes accueillera Auxerre et Nantes recevra Lille. Rappelons que ce matin, l'Olympique de Marseille a pris seul les commandes du championnat. Au stade Vélodrome, les Phocéens sont imposés 6-2 face au Havre avec un quadruplé de Greenwood. Un peu plus tôt ce matin, Lyon s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Nice. Enfin, match nul 1-1 entre Angers et Monaco. Rappelons qu'hier, en ouverture de cette journée, le Paris Saint-Germain avait été tenu en échec 3-2 par Strasbourg au Parc des Princes.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés, sur le terrain, comme dans la vie.
Le Top 14, c'est le championnat de France élite et la section paloise qui poursuit son très très beau début de saison. Ce matin, dans le choc de cette 7e journée, les Palois se sont imposés 30-26 sur le stade toulousain. Victoire acquise dans les tout derniers instants de la rencontre d'un match extrêmement disputé. La réaction du centre de la section paloise, Fabien Broboiry.
On effectue un travail collectif incroyable et ça prouve encore une fois l'état d'esprit du groupe. Jusqu'à la fin, on va chercher une victoire vraiment très très dure. On voit que pendant le match, on galère un peu, mais franchement, avec l'état d'esprit du groupe qu'on a cette année, je pense que ça peut le faire. Ouais.
Et avec cette victoire, Pau prend seul la tête du classement général devant Bayonne qui s'est imposé 44-17 sur Clermont. Les autres résultats de cette 7e journée, Castres s'est imposé 29-24 sur le stade français. Montpellier a battu Lyon 35-13. La Rochelle a dominé Montauban 54-19. L'Union Bordeaux-Bègles est allé s'imposer à Perpignan à 27-12. Cette journée de Top 14 se terminera demain matin pour nous avec une dernière rencontre, ce soir du côté du Stade Mayol où Toulon en recevra le Racing 92.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Avec ce week-end, le Grand Prix des Amériques, c'est sur le tracé d'Austin. Nous sommes au Texas. Deux temps forts ce matin. D'abord, la course sprint qui a été remportée, je vous le rappelle, par Max Verstappen sur Red Bull. Le Néerlandais a devancé la Mercedes de George Russell et la Williams de Carlos Sainz. Autre temps fort des qualifications pour la course principale qui aura lieu demain matin pour nous. Verstappen, encore lui, poursuit son très beau week-end. Il a signé la pole position. Demain, au moment du départ, il aura à ses côtés la McLaren de Lando Norris. Au cœur d'un week-end extrêmement compliqué, les Ferrari ont signé les 3e et 5e temps des qualifications. 3e temps pour le monégasque Charles Leclerc, 5e temps pour le britannique Lewis Hamilton. Du côté des pilotes français, cette séance est à oublier. Isaac Hadjar a pulvérisé sa Racing Bull sans avoir pu signer le moindre temps de référence. Il s'élancera donc logiquement en dernière position demain. Pierre Gasly sur Alpine a signé le 14e temps. Esteban Ocon sur sa Haas le 17e chrono. Le Grand Prix des Amériques, 19e manche du championnat du monde de Formule 1. Ce sera à suivre demain matin pour nous. Le départ sera donné à 6h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Un petit mot de MotoGP puisque l'on courait cet après-midi non loin de chez nous le Grand Prix d'Australie sur le tracé de Phillip Island. C'est l'Espagnol Raúl Fernández qui s'est imposé. Première victoire dans la catégorie reine pour le pilote Aprilia. Il a devancé les Italiens Fabio Di Gianantonio et Marco Bezzecchi. Tout le monde ne peut pas s'appeler Sabot. Côté français, Fabio Quartararo, qui avait signé la pole position, a pris la 11e place. Johann Zarco, lui, a chuté. Il n'a pas terminé la course. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Vigilance orange pour forte pluie et orage pour rappel sur les communes de Canala, Thio, Yaté et Le Mont d'Or. Vigilance jaune pour vent fort sur Marais, l'île des Pins, Nouméa et la Pointe Sud où des rafales atteindront 40 à 45 nœuds, soit près de 80 km/h sous les orages. Le reste du territoire, à l'exception de la Pointe Nord, du Nord-Ouest et des Belles Epes, sera placé en vigilance jaune, forte pluie et orage. Dans la nuit, les nuages resteront nombreux sur l'ensemble du territoire même si de belles éclaircies se maintiendront sur le nord-ouest et la pointe nord. Ailleurs, les averses persisteront, parfois accompagnées d'orages et de fortes pluies sur le sud de la côte est et l'extrême sud, plus localement encore sur les Loyautés et la région de Nouméa. Sur la pointe sud, l'île des Pins est marée, le vent d'est se renforcera autour de 20 nœuds avec des rafales atteignant 35 à 40 nœuds sous les orages encore une fois. Les températures minimales resteront douces malgré la pluie, comprises entre 20 et 22 degrés. Demain matin, le temps restera instable sur l'extrême sud, le sud et la côte est et l'île des Pins où de fortes averses continueront de se produire. Des pluies passagères circuleront également sur les Loyautés, le sud-ouest et le nord-est, tandis que le nord-ouest profitera encore de quelques éclaircies. Le vent d'est à sud-est se renforcera nettement, atteignant souvent 20 nœuds avec des rafales entre 30 et 40 nœuds sous les averses sur la partie sud du territoire. Plus au nord, il restera modéré autour de 10 à 15 nœuds.
Il est 18h15, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver à 19h pour un dernier point sur l'actualité. Tout de suite, c'est la rediffusion de Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Vendredi midi, Elisabeth Noir recevait le général Aouchine, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Excellente soirée, à tout à l'heure.